Donc, bonjour à tous. Donc, excusez les petits problèmes techniques, mais on vit dans un monde déchu, hein? Puis ça ne marche pas tout le temps, donc c'est justement, et ça nous fait vivre des émotions, et c'est justement le sujet de ce matin. Donc, le croyant et les émotions, qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? Donc, ce matin, j'aimerais ça vous parler de notre cœur et les émotions, comme je viens de dire, et de l'importance de nos émotions et comment les gérer. Parce que c'est bien beau, mes émotions, mais il faut faire quelque chose avec. Souvent, elles sont bonnes, mais des fois, elles sont moins bonnes. OK? Donc, peut-être que vous vous souvenez, quand vous avez commencé à... vous avez accepté le Seigneur, donc c'était une journée, en tout cas pour moi, on flottait, là, c'était vraiment une journée vraiment merveilleuse. Et au début, c'est vraiment merveilleux quand on vient au Seigneur, parce que là, on apprend beaucoup des choses sur Dieu, qu'est-ce qu'il est, parce qu'on ne le connaissait pas, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, etc. Et tout ça, ça m'avait apporté à l'époque beaucoup de joie. Et il y a eu, comme on appelle, une poussée de croissance. Vous savez, ça arrive souvent, des poussées de croissance. Ceux qui ont des ados, vous savez, c'est quoi des poussées de croissance? Vous changez les chaussures à tous les mois, quasiment. Non, j'exagère, là, mais... c'est ça, vous connaissez ça, OK. Ouais. Donc, une poussée de croissance, OK? Et la croissance spirituelle nécessite une certaine connaissance de la personne de Dieu. Mais après un certain temps, bien, il y a le monde déchu qui arrive, donc les épreuves, OK? Sont arrivés dans ma vie et les frustrations sont associées à ces épreuves. Et là, on n'aime pas ça, vivre des frustrations. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai mis ça en dessous du tapis. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On met ça en dessous du tapis. Puis, on continue à vivre et on vit dans ce temps-là une certaine stagnation dans la vie spirituelle, et c'est ce qui m'est arrivé, mais sans le savoir. On s'aperçoit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que c'est pas comme avant? Puis après, un autre long, les années passent et les années passent, et j'ai réalisé que ma relation avec Dieu n'avançait plus. Je n'avais plus la joie de Dieu comme auparavant. J'avais beau me répéter les versets Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. » Non, on lit ça. Puis là, on pense que ça va nous pomper, puis tout ça, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Je savais beaucoup de choses sur Dieu, mais, par exemple, je savais que ben, c'est en lui qu'on doit trouver notre joie, c'est lui qui doit être notre joie. Toutes des choses que je savais, mais que je ne vivais pas. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Eh bien, j'ai réalisé que j'avais oublié l'importance du cœur. Donc, peux-tu faire la première slide? Kofi, est-ce que tu voudrais peser sur la petite flèche pour avancer, pour... Ah, oui, merci. Ah.
Est-ce que là, tu as ça dans l'œil?
Tu... Ouais. Okay. Un, deux. Ah, l'importance du cœur. Donc, j'ai réalisé que j'avais oublié l'importance du cœur. Car c'est avec le cœur qu'on peut connaître Dieu, comme dit le prochain verset. Donc, ben, sur le prochain verset qui est Jérémie. Donc, il dit, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent, qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » C'est pas ça bizarre que c'est avec le cœur qu'on connaît. Moi, je pensais que c'était avec la tête, là. J'ai plein de connaissances. Je vais à l'école, puis c'est pour ça, puis j'enseigne, j'ai plein de connaissances. Mais là, il nous dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent, qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Donc, on s'aperçoit ici de l'importance du cœur. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de compréhension, quoique ça peut aider. C'est pas seulement avec la tête qu'on peut connaître Dieu. C'est en ayant une relation de cœur avec Dieu. Mais qu'est-ce que le cœur? Oh, petite diapo. C'est quoi le seul cœur? C'est-tu juste une pompe qui pompe du sang?
C'est la foi.
C'est la foi, oui. OK. Donc, vas-y. Donc, c'est le siège des émotions. De façon générale, et c'est pas... C'est le cœur, on parle ça dans le sens général, c'est pas l'organe, là, mais c'est notre être. Là. Quand on parle du cœur, c'est celui qui va... C'est pas l'organe physique, là, mais c'est notre être entier qui est le siège des émotions. Donc, c'est pourquoi ce matin, j'ai à cœur de vous parler des émotions, et j'ose espérer que ça va vous aider, comme moi, ça m'a aidé en le préparant. Donc, je vais prier, si vous voulez bien, avant de débuter. Oh oui, Père Céleste, encore une fois, je viens devant toi, Seigneur, pour t'apporter mon cœur, parce que c'est vraiment important, et apporter le cœur de toutes les personnes qui sont ici présentes, que vraiment tu puisses les toucher, Seigneur, et nous toucher tous ensemble, Seigneur, et que ta gloire puisse se manifester et qu'on puisse apprendre à comment gérer les émotions qui ne sont pas tout le temps bonnes, Seigneur, qui nous causent des problèmes, mais qui nous... souvent qui nous contrôle tellement, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses nous garder dans tes voies, Seigneur, et que tu ouvres les yeux de notre intelligence, Seigneur, et les oreilles pour qu'on puisse entendre ta parole et qu'on puisse la mettre en application. Pour la gloire de ton nom que je te prie. Amen. Amen. Donc, autre diapo. Continue. Est-ce que la Bible parle des émotions, d'après vous? Oui, hein? Excellent. On continue. Oui, ça parle des émotions. Et dans quel livre qui en parle le plus? Les psaumes. Les psaumes, c'est vraiment un livre qui parle des émotions et ça ne se gêne pas. OK? Donc, continuons. Donc, les psaumes. Oui, et continue. Donc, voici ce que quelqu'un a dit au sujet des psaumes. Allez-y. Donc, je vais le lire en même temps que vous. Continuons, Kofi. Donc, le livre des psaumes est quelque chose comme la section des cartes Hallmark. Vous savez, c'est quoi les cartes, là? Donc, cartes de souhait, tout ça. On cherche des cartes de souhait, tout ça. Puis, souvent, c'est pas nous qui l'écrivons, mais des fois, on trouve des choses qui nous inspirent et tout ça. Bien, c'est la même chose. Les psaumes, c'est un peu la section carte alma dans la Bible. Ici, nous trouvons des mots qui expriment nos émotions les plus profondes et les plus fortes. Pour n'importe quelle circonstance, donc, comme les cartes, donc pour le décès, donc pour les fêtes, pour une naissance, etc. Donc, c'est la même chose ici. Quelques psaumes expriment les louanges, des louanges joyeuses pour les actions de délivrance de Dieu. D'autres expriment la repentance et les aveux de péché. D'autres encore implorent Dieu parce qu'ils ne semblent pas être conscients de la situation de l'auteur. L'éventail complet des émotions humaines est exprimé dans les psaumes. C'est pour cette raison que les hommes et les femmes se sont tournés vers les psaumes pendant des siècles. Les psaumes expriment les émotions les plus profondes du cœur. Donc, nous n'avons pas de problème, habituellement, avec les émotions positives, quoique on va y revenir. Mais les émotions négatives c'est plus difficile un petit peu. On a plus de misère avec ça. Et pourtant, David, l'homme selon le cœur de Dieu, a exprimé des émotions très, très fortes. Autre diapo. Donc, voici quelques exemples tirés des psaumes. Donc, la tristesse dans psaume 38, donc 38:6, David dit, « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. » Donc, c'est un homme selon le cœur de Dieu qui dit ça. Ça peut être aussi, continuons, la honte. Psaume 44:15, « Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. » Ah, donc, la honte. Ensuite, la colère et la vengeance. Colère et vengeance. Je me suis trompé. Donc,
Oui, et toi, ô Dieu, tu le feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Donc, on voit qu'il est en colère. Il pose des actions, il dit des choses vraiment très, très importantes. Ensuite, un des psaumes les plus difficiles, c'est le psaume 109. Donc, on va y aller parce que c'est... Donc, on va y aller en ordre. Donc, place-le sous l'autorité du méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. C'est quand même drôle de voir ça dans la Bible, ça, hein? Continuons. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Encore une fois, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins. Wow! On trouve ça dans la Bible. Et sa femme veuve. Oh! Que les enfants soient vagabonds, qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. C'est dur, hein? Oui, hein? C'est pas des paroles de bénédiction, ça, hein? Il est fâché. Donc, on voit justement qu'il y a une colère dans la vie de David. Mais il n'a pas eu peur de parler de ses émotions. Il en a parlé à Dieu. Mais là, il faut aussi tout de même réaliser que David vivait sous le régime de la loi, OK? Le régime de la grâce qui est arrivé avec Jésus-Christ, ce n'était pas arrivé. Donc, la compassion et tout ça n'était pas encore arrivé, mais quand même, il a quand même exprimé ces choses à Dieu. Est-ce que vous êtes mal à l'aise face à dire des choses comme ça à Dieu? Ce n'est pas évident, hein? Ce n'est pas évident. Mais c'est ce que David a fait, et c'est un homme selon le cœur de Dieu. Donc, je dois vous dire aussi que ce message-là, ça ne vient pas juste de moi, là, ça vient d'un livre qui s'intitule « L'appel du cœur, les émotions révèlent nos questions sur Dieu ». Et les auteurs nous disent, donc on va passer à l'autre diapo, « Toute émotion, bien que provoquée par les contacts horizontaux, donc c'est-à-dire entre nous, okay, reflète cependant un aspect de la relation verticale que nous entretenons avec Dieu ». Donc, il y a un lien là. D'où l'importance d'étudier les émotions. Donc, je crois que dans le milieu évangélique, certains milieux évangéliques ont mis un gros accent sur l'aspect intellectuel de l'être humain au détriment de l'aspect émotionnel. Et même en méprisant même les émotions. Les émotions, c'est pour les faire. Hein? On a déjà entendu ça. Et ça a exercé une influence sur nos outils. Est-ce que vous avez déjà vu ce dessin-là? Non? Donc, souvent, bon, au début de ma vie chrétienne, on dit, ah, ce qui est important, c'est les faits qui doivent tirer la foi et les sentiments, ça, c'est en dernier. Donc, c'est une... Et j'ai entendu ça, qu'il fallait justement ne pas se laisser diriger par nos émotions ou sentiments, et on utilisait ce dessin pour nous convaincre que les émotions devaient aller en dernier. Et ce que j'ai compris, moi, dans tout ça, c'est que les émotions, ce n'était pas important, même c'était même dangereux. J'ai donc essayé d'éviter les émotions désagréables, de les contrôler. Ça marchait un certain temps, mais je peux vous dire qu'à la longue, ça ne marche pas. Voici encore ce que nous disent les auteurs, donc on continue. Au lieu de vouloir à tout prix modifier nos émotions, il serait plus sage que nous commencions par leur prêter une oreille attentive. Elles sont comme une voix qui nous renseigne sur la manière dont nous abordons un monde déchu, des gens meurtris et un Dieu mystérieux qui semble rarement être ou faire ce que nous entendions de lui, Bien que les émotions prennent naissance dans un contexte humain, elles nous révèlent toujours quelque chose de notre relation avec Dieu. Je ne sais pas comment vous réagissez avec un monde déchu. Donc, je pense que des fois, on le subit, mais on a de la misère à l'accepter. OK? Les gens meurtris autour de nous, on est blessés, tous blessés, mais un Dieu mystérieux. C'est vrai que Dieu est mystérieux quelque part, hein? Et on doit réaliser justement qu'on vit dans un monde déchu et que ce monde va nous faire souffrir. OK? Et, on continue, nous habitons dans un monde déchu et on ne devrait pas être surpris de souffrir. Continuons. Et Jésus a dit, dans Jean 6, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » Regardons, ça me semble que je vous donne la paix, mais vous aurez des tribulations. Ça me semble que ça ne va pas ensemble. Mais c'est la réalité de la vie. « Vous aurez des tribulations dans le monde, parce qu'on est encore dans le monde, on n'est pas au ciel encore. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, c'est pour la raison pour laquelle nous ne devons pas être surpris de souffrir. Et cette souffrance va affecter nos émotions. Nous avons été créés pour le jardin d'Éden. Initialement, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et c'était le bonheur parfait. Mais nous vivons, encore une fois, dans un monde déchu. Et qu'est-ce que vous pensez de l'expression « Dieu est mystérieux » ? Est-ce que vous considérez que Dieu est mystérieux? Oui, hein? On ne peut pas tout le connaître, OK? Mais j'ai de la difficulté, moi, avec cette réalité-là, cette affirmation-là. J'aimerais tout comprendre de Dieu, j'aimerais ça, saisir Dieu dans sa totalité. Mais dans ce désir-là, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un manque de foi? Un manque de confiance en lui? Je pense que Dieu nous demande d'avancer, même si nous ne comprenons pas. Et c'est ça la foi. Il nous demande la foi. Et c'est dans ça que les émotions peuvent nous aider à sonder notre monde intérieur. Donc, Donc, sonder notre intérieur. Donc, les auteurs nous disent, oui, les émotions forment une passerelle entre le monde extérieur et le monde intérieur de l'être humain. Parce que des fois, on voit, c'est comme contradictoire, mais ça fait comme le pont. Nos émotions font le pont entre les deux. Le fait de savoir exactement ce que nous ressentons peut déboucher sur des questions que nous préférons ignorer. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de gens trouvent plus agréable de ne rien ressentir. Mais l'absence de toute émotion nous dessèche et nous rend distants de Dieu et des autres. Nous sommes souvent pris entre deux extrêmes, ressentir trop ou pas assez. Et c'est ce que nous disent les auteurs. Et moi, j'ai eu souvent tendance à fuir mes émotions plutôt que à leur tendre une oreille attentive. J'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu pour faire ça. J'ai besoin de m'arrêter et c'est encore difficile aujourd'hui pour moi. Il faut cependant souligner que toute émotion implique une interaction complexe entre le corps et le cœur. Ce n'est pas strictement spirituel. Par exemple, certaines émotions comme l'anxiété et la dépression peuvent avoir des causes physiologiques qui se soignent par des médicaments. C'est pour cette raison que c'est un manque de compassion de dire à ceux qui ont recours à de l'aide médicale qu'ils manquent de maturité ou ne sont pas assez spirituels. Okay? On vit dans un monde déchu et Dieu permet qu'on ait des médicaments. Il ne faut pas en abuser, mais c'est une ressource que Dieu nous met à notre disposition. Et dans le domaine des émotions, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Les solutions ne peuvent se réduire à des conseils du genre « fais ceci » ou « fais cela ». C'est un processus. OK? Mais pourquoi avons-nous tendance à fuir nos émotions? Prochaine diapositive. Donc, eh bien, les auteurs, eux, ont une petite idée. Donc, une des raisons qui nous pousse à fuir nos émotions est qu'elles sont douloureuses. Se sentir blessé fait mal. Ressentir la honte est pénible. Éprouver un sentiment de perte ne fait qu'intensifier le chagrin. Dans un sens, tout cela est vrai. Mais alors, pourquoi cherchons-nous également à fuir les sentiments agréables? Hein? Fuir les sentiments agréables. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc, j'ai une petite histoire pour vous. Il y avait un garçon d'environ 10 ans qui vivait dans une famille où le père était très sévère. Et un jour, il y a eu un cirque qui est venu en ville avec des éléphants. C'est beau, des éléphants, tout ça. Donc, il est venu en ville. Le petit garçon aurait bien aimé y aller, mais il était certain que s'il demandait à son papa la permission d'y aller, qu'il dirait non. Plutôt que de recevoir un refus, il ne demanda pas à son père. Durant la soirée, des voisins sont venus à sa maison et ont dit que leur enfant était allé au cirque. Le père du jeune garçon a dit, « Moi, mes enfants ne m'ont pas demandé d'aller au cirque. » Avec une certaine fierté, comme quoi ses enfants étaient raisonnables. Mais comment pensez-vous que le petit enfant s'est senti qu'il avait manqué une occasion? Donc, tout ça parce que il y avait une émotion, mais pas assez importante pour aller avoir le courage d'aller demander à son père. De toute façon, il va me dire non, puis c'était comme déjà attendu d'avance. Donc, c'est comme ça peut-être que le petit gars s'est senti. Et en passant, ce petit gars-là, c'était moi. Donc, ça a été quelque chose de quand même pas vraiment une émotion désagréable cette fois-ci. OK? Donc, j'avais appris à refouler mes sentiments, même si le désir était agréable. Mais plus que la douleur aussi, c'est la réalité de la vie que nous voulons fuir. Nous voulons échapper à la réalité parce qu'on vit dans un monde déchu et il fait mal d'y vivre. C'est difficile la vie. On a été créé pour vivre au ciel dans un paradis terrestre où tout était parfait. Mais ici, ce n'est pas ce qui se passe. Et même lorsque tout va bien, la joie n'est jamais satisfaite. Et lorsque nous en goûtons un peu, ça fait qu'intensifier notre désir d'en expérimenter davantage. Donc, on a comme une soif de joie, mais cette joie-là est tout le temps éphémère. On me semble qu'on en voudrait plus encore. Et c'est normal, on a été créé pour un monde parfait, puis on ne vit pas dans un monde parfait. Donc, nous avons été créés pour la perfection à tous les niveaux. Et on ne vit pas la perfection dans le monde qu'on présentement. Où est l'espoir maintenant? Autre diapositive. Donc, où est l'espoir? Eh bien, notre espoir, c'est que nous ne goûterons pleinement qu'au ciel le bonheur auquel nous avons été promis. En attendant, il ne nous est pas facile d'accepter le drame de la chute et l'éloignement de notre véritable demeure. Ceci fait écho à Romains 22. Donc, allons-y. Donc, Romains 22, qu'est-ce que ça nous dit? Or, nous savons qu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Si vous souffrez, c'est rien que normal. Comment le gérer maintenant? Ce passage est clair. Ce n'est pas seulement la création, mais nous aussi, car nous faisons partie de cette création. Je crois que cette compréhension de la réalité va nous rendre plus humains vis-à-vis de ceux qui nous entourent et nous pourrons avoir plus de compassion pour eux. parce qu'on vit dans un monde déchu, et c'est normal. C'est une réaction compréhensible de vouloir trouver des moyens d'atténuer l'amertume de nos gémissements causés par nos émotions. Pour ma part, j'ai essayé d'atténuer l'intensité de mes gémissements intérieurs en cherchant à éviter tout simplement les émotions. Je crois que c'est une raison qui explique que je me suis marié à 42 ans. Et oui, il n'est jamais trop tard. J'avais peur des émotions que je pourrais vivre. Peur du rejet. Peur de subir la souffrance, finalement. C'est pour ça que je me suis fermé aux émotions. Donc, prochaine diapo. Ça résume bien ce que je vivais. Donc, pour plusieurs, faire l'expérience de fortes émotions est plutôt rare et inhabituel. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, c'est moi ça. Dans cette description-là, c'est moi. Écoutez bien la suite. Leur vie intérieure se caractérise par la froideur qui frise l'indifférence. Il est regrettable que cette disposition soit prise parfois pour de l'assurance. De nombreux milieux dénigrent les sentiments passionnés parce qu'ils sont jugés non spirituels. Vous serez considéré comme une personne pieuse si vous arrivez à gérer vos difficultés avec une confiance détachée et placide. Cependant, une telle conclusion est fausse. Il y a des moments où l'absence d'émotion est le fruit d'une certaine dureté et de l'orgueil. C'est souvent le signe d'un refus de faire face au chagrin de l'existence humaine et à l'espérance du ciel. Je réalise de plus en plus que ma fuite des émotions était de l'orgueil. Je voulais paraître plus spirituel que les autres. Ah, moi, je le Seigneur. Tout va bien, Madame la Marquise. Hein? Le Seigneur me suffit. J'ai la foi en Dieu. Et j'ai réalisé que tout ceci m'a amené à un manque de compassion ou d'empathie pour les autres. Il m'était difficile d'entrer en relation intime avec les autres parce que souvent, quand on me partageait des difficultés, j'étais mal à l'aise parce que je n'étais même pas à l'aise avec les miennes. Fait qu'imagine ceux-là des autres. C'est subtil, mais c'est une forme d'orgueil. OK? Donc, c'est ce que j'ai réalisé. C'est pourquoi nous devons considérer les émotions non comme un problème à résoudre, mais un cri à entendre. Comme la petite lumière rouge là, dans notre char, là, manque d'huile, là. Ah non, on va fermer ça. Bien, faites ça, puis vous allez voir que ça, le moteur n'ira pas bien. OK? Donc, que c'est pourquoi nous devons considérer les émotions non comme un problème à résoudre, mais un cri à entendre. Et ceci est beaucoup plus difficile à faire que simplement prendre la décision de maîtriser nos émotions. Et c'est justement ce que le psalmiste nous dit de faire, sonder notre monde intérieur et non le négliger. Donc, Psaume 42, 11, donc on continue. 42, 11, oui. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, mon Dieu. Donc, et comme le disent si bien les auteurs, donc on continue. Ignorer nos émotions équivaut à tourner le dos à la réalité. Mais l'écoute de nos émotions nous introduit dans le monde du réel, celui de la rencontre avec Dieu. Donc, si on met nos émotions à off, on n'aura plus de passion pour rien, on ne sera plus touché par rien, on ne pourra pas trouver la consolation de Dieu, etc. Donc, on se met au nœud et c'est très néfaste pour nous. Continuons. Mais qu'est-ce que ça veut dire écouter ses émotions et comment on fait ça? Eh bien, encore une fois, nos auteurs nous disent, on continue. À quoi... Non, okay. Non, je suis trop loin. Je pas assez loin, finalement. À quoi devons-nous prêter attention lorsque nous écoutons nos émotions? En partie à la direction qui suit. En partie à la direction qui suit notre cœur. La question « qu'est-ce que je ressens? » est une autre façon de nous demander « qui suis-je? » Dans quelle direction est-ce que j'avance? Suis-je en train de me rapprocher ou de m'éloigner de Dieu? Suis-je retourné dans sa direction avec respect et reconnaissance ou est-ce que je le fuis pour me diriger vers les idoles de ma propre fabrication? Donc, c'est des bonnes questions, hein? Mais comment ça se fait, ce pratico-pratique? Eh bien, j'ai quelques exemples de la vie de tous les jours. Quelques exemples, oui, c'est ça qu'on est rendu. OK. Donc, premier exemple. J'arrive du travail exténué. J'ai eu une grosse journée. Je voudrais que mon épouse prenne soin de moi. Donc, c'est mon désir. OK. J'arrive et elle n'est même pas là. Et le souper n'est même pas prêt. Je sens de la frustration qui monte en moi. On va arrêter là. Donc, on va arrêter là. Ouais. Seuls les noms ont été changés. Donc, première question qu'on doit se poser, pourquoi je ressens une frustration? Pourquoi je ressens une frustration? Bien, je veux finalement que ma femme comble mes besoins à la fin du comble. Et je veux que ma femme devienne mon Dieu, donc ça devient mon idole. Il n'y a personne qui peut combler mes besoins parfaitement, il y a juste Dieu. Et même ici sur la terre, ça n'arrivera pas encore. OK? Donc, c'est un exemple. Autre exemple. Je viens le dimanche matin à l'église et le message du prédicateur ne me touche pas. Je suis frustré car je n'ai pas été nourri. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Ça, ça n'arrive jamais. Non. Donc, continuons. Qu'est-ce que ma frustration cache? Eh bien, je m'attends que le prédicateur vienne combler le vide de ma vie par sa prédication, par son charisme. Mais on ne garde pas bonne place. Le prédicateur ou l'Église devient mon idole. C'est subtil, hein? Mais ça peut arriver. Un dernier exemple. Lorsque quelqu'un a des difficultés ou lutte avec un péché et que je l'accompagne, je deviens patient et frustré parce qu'il retombe souvent dans les mêmes difficultés ou péchés. Donc, question, pourquoi je suis impatient et frustré? Bien, peut-être que j'aimerais avoir un certain impact ou si elle avait de la considération pour moi, elle mettrait en application mes conseils. Hein? Mais là, elle ne le fait pas. Je suis frustré. Je crois que ça dépend de mes conseils et que si la personne suivait mes conseils, elle s'en sortirait. Hein? Donc, moi, je suis tout puissant. Autre, serait-il possible que cette personne lutte tout le reste de sa vie avec ce péché? Ça se peut. On va être délivré complètement juste au ciel. Ça se peut qu'on vive en progrès, mais jamais délivré complètement. OK? Donc, ça se peut qu'on tombe. Et c'est pas pour rien qu'il dit, si nous péchons, il est fidèle juste pour nous pardonner. Si on ne péchait plus une fois qu'on était chrétien, il ne nous dirait pas ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec elle? Arrête pas de tomber. Bien, je vais la laisser tomber, moi aussi. Mais ça ne nous arrive jamais. Hein? On continue. Est-ce que mon but est de changer la personne, finalement? Hein? C'est une bonne question à se poser. Autre. Qui est responsable du changement des personnes? C'est Dieu. Ah! Dans tout ça, je ne dépends pas de Dieu d'abord. Si je pense que c'est moi, puis là, ça me frustre. Continuons. Finalement, je ne fais pas confiance à Dieu qui va faire le changement en son temps. Je voudrais que ça arrive en mon temps. Hein? On est impatient. C'est ce qui fait que je manque de patience envers cette personne-là. Donc, tous ces exemples me font réaliser que sans Dieu, je ne peux rien faire. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Je veux dépendre de Dieu pour qu'il me fasse grâce d'aimer et d'être patient. Et il va le faire en son temps, et le changement ne sera jamais parfait sur cette terre. La perfection, c'est pour le ciel. Mais on peut cheminer, on peut grandir, mais on est limité. Et ceci va m'amener aussi une plus grande humilité, et il nous a dit qu'il fait grâce aux uns. Moi, ça m'encourage. Donc, voici encore une dernière citation de les auteurs, volume. Il nous a dit, « C'est pourquoi n'imaginez pas que c'est en calmant la vive agitation de vos émotions que vous rencontrerez Dieu. En fait, les blessures et les mutilations de l'existence constituent la toile de fond sur laquelle brilleront la lumière divine et l'espérance qu'elle fait naître. C'est l'absence de tumulte, plus que sa présence, qui est néfaste pour l'âme. Dieu vient à vous au sein de votre faiblesse, et non dans l'étalage de votre force. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Okay? Il console ceux qui pleurent, et non ceux qui sont inaccessibles au désespoir. Il se révèle plus souvent dans les moments sombres de la vie que dans les jours de bonheur. Mon but ce matin, ce n'est pas de vous décourager, mais de vous faire part de la réalité du monde dans lequel nous vivons et de vivre nos émotions, les mettre en lumière afin que nous puissions les amener au pied de la croix et gérer ça avec Dieu parce qu'on a besoin de sagesse. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez triste, angoissé, mais dites-vous que vous êtes en bonne compagnie, celle de notre Seigneur Jésus, qui a vécu les mêmes choses que vous et qu'il peut vous comprendre. Prochaine diapo. Le passage suivant, donc c'est Jésus qui est au jardin de Gethsémané. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Donc, vous voyez ici, Jésus ne pas nier ses émotions. Triste, éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Je pense que s'il y a une personne qui a vécu ça sur la terre, c'est bien lui. On ne vivra jamais autant que lui. Donc, il n'a pas nié ses émotions, il les a exprimées. Donc, prenons exemple sur notre Seigneur et Sauveur pour amener ces émotions-là qui nous troublent et gérons-les avec Dieu. Peut-être des fois, il faut leur aller visiter des choses qui viennent de notre passé. Ça se peut, mais avec lui, ça va y aller à la bonne vitesse. Des fois, on trouve que ça prend du temps de guérir. Des fois, ça peut être moins long, des fois, c'est plus long. Mais souvent, ce qui arrive, ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que je pensais d'avoir réglé quelque chose, mais on dirait que c'est comme une couche d'oignon, comme des oignons. Il y a tout le temps des pelures à enlever. À un moment donné, je n'enlève une, ah, je suis correct, là, maintenant je suis correct. Non, ah, il y a une autre pelure, puis c'est quelque chose, je pense, c'est un, comme on dit, un work in progress, quelque chose qu'on doit faire continuellement, amener nos émotions à Dieu pour que Dieu puisse, on puisse sonder notre cœur avec ça et que Dieu puisse agir pour nous guérir, parce qu'il veut nous guérir. Il veut qu'on apprenne à marcher en progrès et des fois, ils vont. Comme avec Paul, il peut laisser un écharpe dans la chair pour pas qu'on s'enorgueillisse. Il a fait ça pour Paul, pour qu'il puisse mieux servir. Parce que sans ça, on devient orgueilleux facilement. Hein? On se connaît. Hein? Donc, c'est ce qui se passe. Donc, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur ce matin. Donc, j'aimerais ça prier pour nous. Parce qu'on est tous dans le même bateau. On a tous des émotions à amener à Dieu. Et ce n'est pas facile. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la direction de son Saint-Esprit. Prions. Oui, Père Céleste, merci, Seigneur, parce qu'à travers ce message, tu m'as parlé, Seigneur, et j'ose espérer que tu as parlé à nous, mes frères et mes sœurs. Seigneur, je te demande qu'on puisse vraiment t'amener nos émotions, Seigneur, et ne pas les mettre sous le tapis, Seigneur, parce que ce n'est pas la solution, Seigneur. C'est de les exposer à la lumière afin que l'ennemi n'ait pas accès, Seigneur, à nos mauvaises émotions et qui nous manipule avec ça, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton Fils, Jésus-Christ, a tout accompli, Seigneur, sur la croix et il nous a délivrés, Seigneur, de cette nature déchue, Seigneur, même si on vit encore avec, Seigneur, pour un temps, mais on sait que la délivrance va être pour l'éternité avec toi au ciel, Seigneur, en ta présence. Gloire te soit rendue. Et que vraiment tu puisses bénir ce restant de culte, Seigneur. Amen.